carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Dans le cadre de la Semaine du dessin 2007, qui a lieu en mars chaque année depuis 7 ans, le musée Condé de Chantilly présente une sélection de dessins de maîtres tirés de son propre fonds pour répondre au thème choisi cette année par les organisateurs du Salon du dessin, l'artiste collectionneur. L'exposition est ouverte du 21 mars au 4 juin 2007 au musée Condé du château de Chantilly. Avec moi aujourd'hui dans les studios de Canal Académie, Nicole Garnier, conservateur en chef du musée. Nicole Garnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venue nous parler des trésors des collections du Duc d'Aumale et de ceux que vous avez décidé de montrer au public en correspondance avec le thème de l'artiste collectionneur. Joli sujet qui dévoile un peu de l'univers personnel des artistes. Embarquons pour une promenade dans le temps et dans l'espace, dans ce beau lieu du château de Chantilly et dans le temps car les dessins exposés s'échelonnent du XVIe au XIXe siècle. De Primatis à Ingres, l'artiste collectionneur, tel est le titre de l'exposition. Nicole Garnier, pour quelles raisons les artistes collectionnent-ils les dessins de leurs prédécesseurs ?
Eh bien, peut-être tout d'abord pour former leur œil, pour former leur goût. C'est une source d'inspiration importante pour les artistes et il ne faut pas perdre de vue qu'au XVIIe ou XVIIIe siècle, les artistes s'inspiraient de leurs prédécesseurs. La Renaissance a redécouvert l'art classique avec l'Antiquité et a toute une tradition chez l'artiste depuis la Renaissance de s'inspirer des générations qui ont précédé. Donc c'est dans ce courant-là que des artistes anglais, en particulier, ont commencé à acheter des dessins de la Renaissance italienne lorsqu'ils faisaient leur voyage d'études à Rome. C'est tout à fait dans ce cadre. On a commencé par collectionner les dessins italiens de la Renaissance qu'avaient fait les grands prédécesseurs, les grands maîtres.
Y a-t-il un profil particulier de l'artiste collectionneur ?
Ah, y a sûrement un profil particulier de collectionneur, mais d'artiste collectionneur, c'est plus difficile à déterminer.
Pouvez-vous nous présenter la fantastique collection des dessins du musée Condé ?
Oui, le musée Condé de Chantilly conserve essentiellement grâce à Henri d'Orléans, duc d'Aumale, notre donateur, qui donc a légué le château de Chantilly en 1884 à l'Institut de France. Le musée Condé conserve donc un fonds de près de 2500 dessins. Donc c'est un fonds tout à fait énorme, avec essentiellement différents fonds qui ont été acquis par lot par le duc d'Aumale, en particulier la collection de Frédéric Rézet, qui était un conservateur du cabinet des dessins du Louvre au XIXe siècle et qui a collectionné aussi bien des artistes italiens de la Renaissance que des dessins allemands de Durer ou de sa génération, des dessins de Poussin, près d'une centaine de dessins de Poussin sont entrés avec la collection de Rézet, et puis ensuite des dessins du XIXe siècle. Donc ça, c'était le fonds de Rézet. Mais le duc d'Aumale a acheté aussi d'autres fonds. Il a acheté, par exemple, des dessins de Carmontel, qui est un artiste moins connu du XVIIIe siècle, mais qui était un officier de la famille d'Orléans, qui a résidé au Palais Royal, qui a réalisé les portraits des invités, des ancêtres du duc d'Aumale, qui était un Orléans, bien sûr, dans cette demeure du Palais Royal. À chaque fois qu'un hôte de marque venait déjeuner, dîner, donner, participer à une réception au Palais Royal, eh bien Carmontel réalisait ses portraits. Ce qui nous fait aujourd'hui, à Chantilly, une sorte de cour dessinée de 470 portraits du XVIIIe siècle, tout le temps de la douceur de vivre qui se déroule sous nos yeux. Donc des fonds entiers que le duc d'Aumale a acquis. Il a acquis aussi près de 600 dessins de Raffet, le célèbre lithographe et dessinateur du XIXe siècle, qui lui-même collectionnait des dessins de ses prédécesseurs pour réaliser ses lithographies et ses gravures.
Pouvez-vous nous dire un mot du cabinet des dessins du musée Condé ? Parce que je ne l'ai vu qu'en photo, mais ça a l'air d'être une pièce toute charmante.
Alors, c'est un immense volume qui a servi de théâtre sous la Restauration. À Chantilly, avant la Révolution, au XVIIIe siècle, il y avait un théâtre dans le parc. Un théâtre qui était d'ailleurs magnifique, parce que le fond de ce théâtre pouvait s'ouvrir sur les fontaines et sur le jardin de Chantilly. Mais ce théâtre a été détruit à la Révolution, comme malheureusement une grande partie de nos collections et du château, quand le château a été rasé en 1798. Et donc lorsque les princes de Condé sont revenus d'exil, sont revenus d'émigration sous la Restauration, après la Révolution et l'Empire, eh bien ils se sont aménagés un théâtre dans les sous-bassements du grand château. Donc c'est ce volume aujourd'hui qui est dévolu à la conservation de nos dessins. C'est un volume très vaste, qui a été transformé en bibliothèque par le duc d'Aumale à la fin du XIXe siècle, dans les années 1880. Donc il faut imaginer une architecture de fer avec plusieurs étages de petits escaliers en colimaçon qui permettent d'accéder au rayonnage. Et c'est un vaste volume qui est couvert de livres, tapissé de livres, du sol au plafond. Mais on a encore aujourd'hui la disposition d'un théâtre avec une partie balcon, une partie orchestre. Et on peut même imaginer la scène et les loges derrière les rayonnages du duc d'Aumale. Alors, c'est une bibliothèque de travail, on n'y a que des ouvrages relativement récents. Les plus beaux livres sont eux conservés au cabinet des livres, qui est dans le musée ouvert au public, dans le musée visitable du duc d'Aumale. Mais là, au centre de cette vaste bibliothèque, se trouve notre cabinet des dessins.
Alors, parmi ces dessins, vous en avez sélectionné quelques-uns pour cette exposition de Primatis à Ingres. Sur quels critères avez-vous sélectionné les dessins présentés aujourd'hui au public ?
Eh bien, on a cherché, pour se calquer sur le thème de l'artiste collectionneur, on a cherché ceux, parmi les 2500 dessins aujourd'hui à Chantilly, qui avaient été conservés, qui avaient été acquis par des artistes plus ou moins célèbres à différentes époques, du XVIe au XIXe siècle. Alors, les plus anciens de ces collectionneurs, eh bien, ils remontent à la Renaissance, puisque l'exposition s'ouvre sur un dessin qui a appartenu.
Il y a à peu près combien d'artistes et collectionneurs
présentés ? Il y en a 18 dans l'exposition, et il y a à peu près 85 feuilles qui sont présentées dans l'exposition, qui est sur deux salles. Donc, je crois que c'est une sélection assez représentative, à la fois de notre collection de dessins, et à la fois de ces artistes collectionneurs du XVIe au XIXe siècle.
Alors, quels étaient l'état de ces œuvres ? Est-ce qu'il a fallu en restaurer certaines pour les exposer aujourd'hui ou bien...
Alors, ces restaurations ont eu lieu, mais elles n'ont pas eu lieu pour l'actuelle exposition. Elles ont eu lieu pour les expositions qui les ont précédées. Chantilly a, depuis une quinzaine d'années, une politique assez raisonnée et systématique de publication et d'exposition de son fonds. C'était un cabinet de dessin encore relativement peu publié il y a 15 ans. Aujourd'hui, il y a eu un gros effort de fait. On a publié notamment en 1995, 1997 et 1998, en trois expositions et en trois catalogues, notre collection de dessins italiens de la Renaissance. On a en tout 150 dessins de la Renaissance italienne. Je ne parle que des Italiens, là.
Oui.
Il y a eu donc trois expositions successives qui ont permis aussi la restauration de ce fonds grâce à un partenariat avec la Fondation Rhône-Poulenc, à ce moment-là, qui nous soutenait, qui nous a permis de restaurer ce fonds. Les dessins de Poussin ont été étudiés et déjà montrés en 1994 avec l'exposition sur la collection des œuvres, puisqu'il y avait aussi les tableaux, mais il y avait bien sûr nos 100 dessins de Poussin qui étaient présentés donc au moment où se tenait au Grand Palais une grande exposition rétrospective sur Nicolas Poussin. Nous avions souhaité présenter sur place à Chantilly, puisque les clauses de la donation du duc d'Aumale ne nous permettent pas de prêter les collections. Donc on avait fait une exposition sur place de ce fonds avec une publication systématique. Donc c'est un petit peu à l'occasion de ces expositions temporaires qui étaient plutôt ciblées sur des périodes ou sur des artistes que le fonds a été restauré. Par exemple Prudhon, les dessins de Prudhon ont été restaurés en 1997, quand de la même manière nous avons accompagné une exposition de la Réunion des musées nationaux au Grand Palais par une exposition de notre fonds, 30 pièces dont 27 dessins. Donc ça s'est fait un petit peu au fil des temps et aujourd'hui s'il n'y a pas de catalogue autour de cette exposition des artistes collectionneurs, c'est grâce justement aux efforts qui ont été consentis à la fois par les équipes qui ont travaillé pour publier ces dessins. J'ai cité les dessins italiens, j'ai cité les dessins de Poussin ou de Prudhon. On pourrait citer aussi les travaux de David Mandrella qui a publié nos dessins allemands et flamands des 15e au 17e siècle au cours de deux expositions plus récentes. Et à chaque fois, ces expositions sont accompagnées de restaurations systématiques.
Est-ce que les dessins qui sont présentés aujourd'hui ont déjà été présentés au public ? Non, ils sont publiés mais présentés.
Ils ne sont pas présentés en permanence. Les dessins sont toujours exposés pour des périodes brèves car ils ne supportent pas la lumière. Donc nous les présentons uniquement pour 3 mois au public, ce que nous essayons d'accompagner systématiquement de publications, de catalogues raisonnés, mais uniquement pour 3 mois. Ensuite, ils doivent retourner pour 3 ans au noir, comme nous disons dans notre jargon, dans la pénombre du cabinet des dessins. Donc nous pouvons les ressortir cycliquement au bout d'un certain temps, selon un canevas que l'on peut imaginer, là en l'occurrence celui de l'artiste collectionneur.
D'accord, donc toutes les œuvres présentées ont déjà été présentées.
Oui, à part 2 dessins, un de Guerchin et un de Ribera. Oui, tous les autres ont déjà été présentés. Il n'y a pas vraiment de dessin inédit.
Inédit, ça veut dire
inédit,
non,
ça veut dire
public,
non présenté ou non publié.
D'accord.
Que le public n'ait pas vu ou n'est pas, auquel il n'ait pas accès par soit le net ou quoi que si. Maintenant, par le net, tout est accessible. Je ne peux même pas employer le terme d'inédit, en fait.
Sait-on quels étaient les artistes les plus appréciés par les artistes collectionneurs ? Peut-on déceler une évolution dans...
Oui, il est certain qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle encore, nos artistes collectionneurs étaient surtout intéressés par l'art de la Renaissance. On trouve des grands maîtres comme Raphaël, l'entourage de Raphaël, Jules Romain, Perino del Vaga, qui sont des artistes très représentés dans l'exposition. Par la suite, certains collectionneurs se sont orientés plus vers les écoles du Nord, ce qui dénotait déjà une certaine compétence en histoire de l'art, une certaine ouverture d'esprit. Et au XIXe siècle, c'est vrai que les écoles du Nord étaient plus particulièrement appréciées. Ça tranchait un petit peu sur les grands maîtres italiens qui étaient un petit peu un must, quelque chose d'incontournable chez nos collectionneurs.
Comment est-ce que les œuvres d'art se vendaient à la Renaissance, puisque ce qu'on appelle aujourd'hui le marché de l'art n'existait pas? Pourtant, ces œuvres étaient bien acquises, transmises. Comment?
Alors, c'était souvent les artistes eux-mêmes qui séjournaient à la cour des grands personnages, des grands mécènes qui les protégeaient, qui quelquefois se faisaient des intermédiaires. Mais en ce qui concerne les dessins, ils n'avaient pas encore tout à fait la valeur d'objet d'art qu'on leur attribue aujourd'hui. C'était un marché un petit peu parallèle. Et la plupart des dessins qu'on voit aujourd'hui dans l'exposition, qui ont été collectionnés dès le XVIe et le XVIIe siècle, eh bien, ils passaient de main en main, d'artiste en artiste, plus dans un but utilitaire, afin d'être recopiés, afin d'aider les artistes à se former, que dans un but proprement de collection, dans un premier temps. Puis le marché de l'art, c'est arrivé un peu après, il s'est vraiment développé au XVIIIe siècle.
Nicole Garnier, quels sont les artistes collectionneurs phares de l'exposition?
Moi, je commencerai tout d'abord par vous parler de Vasari. Vasari, qui est un peintre, qui est un grand artiste de la Renaissance, qui est architecte, mais qui est surtout historien d'art, je dirais, puisqu'il est le biographe, en fait, des artistes italiens, ses contemporains. Il a écrit une vie des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes au milieu du XVIe siècle, qui a fait longtemps autorité, et qui est un ouvrage très important pour la connaissance de l'art de la Renaissance italienne. Alors ce Vasari, Giorgio
Nicole
Vasari,
Garnier,
qui est un Florentin, on conserve de lui un dessin, enfin qui n'est pas de lui, mais qu'il a collectionné au cours de sa vie, qui est un dessin italien de la Renaissance, qui n'est pas d'une très grande qualité, mais qui est tout à fait symptomatique de ses premières collections qui se formaient, donc du vivant même des artistes de la Renaissance.
Et elle est exposée, effectivement, c'est la première œuvre offerte
voilà,
au public.
C'est le plus ancien artiste collectionneur que nous ayons dans les collections, mais quel nom que Vasari tout de même.
Et voilà.
Alors il y a d'autres biographes aussi qui, à ses côtés, ont illustré cette facette de notre collection. Je pense en particulier à Karel van Mander, qui est un peintre hollandais, lui qui représente les écoles du Nord. Mais Karel van Mander, il a fait un grand trajet en Italie, il y a séjourné longtemps. Et lui aussi a réalisé une vie des peintres italiens et flamands, puisque c'est un nordique. Et alors lui, il a collectionné des dessins majeurs, puisqu'il nous livre une annonciation d'Albert Dürer, qui est une des feuilles les plus importantes du cabinet des dessins de Chantilly. Donc une grande annonciation datée de 1526, avec le très beau monogramme de Dürer, qui est une feuille à la plume, à l'encre brune, avec des rayons d'aquarelle, qui est un dessin très pictural et d'une grande dimension.
Et puis il y en a un deuxième de Dürer aussi.
Il y a un deuxième dessin de Dürer, en effet, alors qui n'a pas été collectionné par Van Mander, mais par un autre artiste nordique, qui est Sandrart. Oui. Et c'est le portrait de Gaspard Sturm avec l'hôtel de ville d'Aix. Donc un dessin qui appartenait à l'album de voyage, au carnet de dessin, que Dürer a réalisé lors de son voyage aux Pays-Bas. On a à Chantilly effectivement la chance d'avoir trois feuilles recto verso, donc six dessins de Dürer appartenant à cet album. Et ils ont appartenu donc au XVIIe siècle à Joachim von Sandrart, qui est un artiste allemand, mais qui a séjourné à Rome fort longtemps, qui a été l'ami de Poussin, de Claude Gelée, le Lorrain, et qui a beaucoup collectionné. Donc il a eu aussi une trajectoire importante, aussi bien en Italie que dans les pays germaniques, et donc il s'est intéressé à des artistes comme Dürer, ce qui était assez novateur au XVIIe siècle.
Alors, en quelque sorte, ces premiers collectionneurs étaient des historiens d'art, en fait.
Tout à fait. Ils avaient plusieurs facettes, plusieurs cordes à leur arc.
Alors, pour le XVIIe siècle, quels artistes collectionneurs ont retenu votre attention?
Eh bien, je dirais qu'au XVIIe et au début du XVIIIe siècle, on voit toute une floraison d'artistes anglais. C'est ce qui frappe le plus dans la collection de Chantilly, tout au moins. Puisqu'on trouve des noms aussi variés que ceux de Peter van der Face, vous me direz, c'est un peintre nordique, certes, mais on le connaît aussi sous le nom de Sir Peter Lely, quand il vient se fixer à la cour du roi d'Angleterre, où il va devenir un des plus grands portraitistes anglais. Il va en quelque sorte succéder à Van Dyck à sa mort. Il va donc se fixer à la cour anglaise et va réaliser de grands portraits. Il va être couvert d'honneurs, de gloire et de charges, ce qui va lui rapporter beaucoup d'argent et ce qui lui permettra aussi de collectionner. Alors dans sa collection, on a choisi un dessin de Polydore de Caravage, qui est un très beau dessin à la plume et au lavis. On aurait pu en choisir d'autres, il y en a d'autres dans la collection de Chantilly. Il y a des artistes également comme Richardson. Je devrais dire les Richardson, parce qu'il y a le père et le fils. Nous, c'est surtout la collection de Jonathan Richardson Senior, qui est représenté à Chantilly, qui est aussi un portraitiste anglais, qui a une certaine notoriété au XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Et dans sa collection, on trouve des maîtres comme Filippino Lippi, comme Perino del Vaga, comme Polydore de Caravage encore, ou des artistes de l'entourage de Claude Gelée.
Ces peintres anglais tiennent une place particulière parmi les artistes collectionneurs, ou c'est par rapport à la collection du musée?
Je crois que c'est un peu les deux. Ce qui est tout à fait symptomatique, c'est des gens qui voyageaient beaucoup.
Oui. Hein,
ils se rendaient en Italie, c'est ce qu'on appelait le Grand Tour. Donc ils allaient se former en Italie auprès des maîtres de l'Antiquité, de la Renaissance. Et tout naturellement, ils étaient amenés à rapporter chez eux, à ramener quelques souvenirs de ces jours anglais qui quelquefois étaient longs.
Oui.
Alors parmi ces artistes anglais se glisse un Américain. Hein. On a glissé au nombre des peintres anglais Benjamin West, qui est d'origine pennsylvanienne, mais qui va se fixer en Angleterre et qui va lui aussi collectionner là-bas.
Alors,
beaucoup d'anglophones.
Voilà. Parmi eux, Sir Thomas Lawrence a vraiment une place particulière.
Oui, et puis aussi celle de Sir Joshua Reynolds. On a vraiment
les deux
grands artistes anglais de cette époque. Sir Joshua Reynolds qui collectionne plutôt des artistes de Baccio Bandinelli, de Fra Bartolomeo, Giulio Romano, Perino del Vaga. Donc on est vraiment encore dans la tradition des artistes italiens du XVIe siècle, de la Renaissance. Et puis, Sir Thomas Lawrence, comme vous le disiez, alors là, c'est un festival.
Oui.
C'est vraiment le collectionneur par excellence. Sa collection était célébrissime. Elle a été vendue en plusieurs vacations. Elle était énorme. Et bon, l'essentiel de la collection présente à Chantilly et présentée dans la Galerie Psyché, c'est un festival. On a à la fois des dessins allemands très tôt, le maître des rondes Cobourg, Wolkenbach. On a également des dessins de la Renaissance. Alors là, ils se trompent quelquefois. Il y a un jugement dernier qui croyait être de Michel-Ange. On sait que c'est l'école de Michel-Ange. Mais c'est un dessin très tôt, puisqu'on voit le jugement dernier de la Sixtine tel qu'il était avant les repeints de pudeur qui lui ont été imposés peu de temps après la réalisation par l'artiste. Mais on a surtout, je dirais, avec la collection de Thomas Lawrence, une importante brochette de dessins classiques français du XVIIe siècle, notamment tous les Nicolas Poussin, et parmi les plus beaux de la collection de Chantilly. Ça, c'est assez fabuleux. On a à la fois des mythologies gréco-romaines très tôt dans la carrière de Nicolas Poussin. C'est que Poussin vient se fixer à Rome dans les années 1620. Il nous livre entre autres un Mars et Vénus, un Assis et Galatée, qui, avec des nudités féminines superbes. Ce sont des lavis à l'encre de Chine tout à fait magnifiques. On a aussi des paysages de Poussin, une manière qu'il a plutôt appréciée à la fin de sa vie, au moment où il travaillait sur le terrain, aux côtés de son ami et presque compatriote, le Lorrain Claude Gelée, qu'on connaît surtout sous le nom de Claude Lorrain.
Oui.
On a aussi des scènes religieuses de Nicolas Poussin, notamment des saintes familles. On a deux saintes familles qui viennent de la collection de Lawrence qui sont présentées. On a également des grands sujets tirés de l'Antiquité classique avec la mort de Germanicus, qui est le dessin préparatoire pour le grand tableau du musée de Minneapolis, donc un des chefs-d'œuvre de Nicolas Poussin. C'est tout un mur avec une collection très forte de dessins du XVIIe siècle français, de la grande époque classique française. Et c'est intéressant qu'un artiste anglais comme Sir Thomas Lawrence les ait collectionnés à son époque, donc avec un décalage de plus d'un siècle, un siècle et demi.
Pour le XIXe siècle, vous avez exposé des œuvres de la collection de Jean-Antoine dit le Baron Gros,
ouais,
qui était entré très tôt dans l'atelier de David, mais qui s'intéressait aussi aux peintres novateurs de son époque et qui a donc collectionné quelques œuvres.
Oui, alors on expose principalement un dessin que Gros a dû acheter probablement comme un dessin de Nicolas Poussin. Aujourd'hui, on pense plutôt que c'est autour de Nicolas Poussin que de la main même de l'artiste, en tout cas. C'est très significatif dans l'œuvre de Gros, hein, qui est connu à la fois à la charnière des peintres néoclassiques et comme le premier des romantiques. Gros qui est représenté par ailleurs dans les collections de Chantilly avec la magnifique esquisse des Pestiféries de Jaffa, hein, qui est une sorte de bon à tirer, de prototype proposé à Bonaparte avant que le tableau soit réalisé pour la grande machine qui est aujourd'hui au musée du Louvre.
Alors, on ne voit pas cette...
Mais on voit ce dessin de Poussin ou d'autour Nicolas Poussin, oui, donc dans les années romaines, autour de 1640, 1650, on imagine, qui est un magnifique lavis. Donc c'est intéressant de voir cet artiste néoclassique, début de l'époque romantique, s'intéresser en fait à la génération des peintres classiques français un siècle plus tôt. Ça, c'est très significatif.
Comme un... une volonté de rassembler un héritage
de classique et néoclassique, dans l'étiquette que les historiens d'art ont bien voulu placer sur cet artiste.
Vous présentez également des cartons de tapisserie de la collection du sculpteur autrichien Joseph Daniel Böhm au public dans cette exposition. Alors ce sont des cartons de tapisserie des œuvres de Raphaël.
Alors ce sont des œuvres autour de Raphaël. Ce sont des œuvres assez monumentales. Hein. C'est sans doute parmi les plus grands dessins que nous conservions à Chantilly. Hein. 40 par 50 cm, oui. Ce sont des choses très picturales, puisque ce sont des cartons, donc ce sont des têtes d'apôtres, plus que grandeur nature, c'est assez impressionnant. On a donc trois dessins qui chacune présente trois têtes ou deux têtes d'apôtres. Donc c'est toute une galerie de portraits qui défile devant nous avec des têtes masculines un petit peu sévères, rehaussées de couleurs hein, puisque c'est traité à l'aquarelle sur papier. Et donc c'est l'école en fait de Raphaël qui a réalisé ces grands cartons pour traduire en tapisserie des œuvres de l'artiste. Il s'agissait d'une commande du pape pour la chapelle Sixtine. Alors on sait que les tapisseries ont été réalisées dans les Flandres, dans les ateliers de Peter van der Elst à Bruxelles, et étaient en place dès les années 1519, donc on est dans des dessins assez tôt. Alors il est assez intéressant que ça ait été collectionné au XIXe siècle par cet artiste pas très connu, hein, qui est Joseph Daniel Böhm, qui est autrichien, qui est un médailleur, qui est un graveur sur pierre et qui est sculpteur aussi, et qui lui aussi fait son grand tour en Italie et qui va s'intéresser à ces objets de la Renaissance tout à fait extraordinaires, avec ces têtes de grande dimension qui sont très impressionnantes.
Et puis, vous avez exposé également des éléments de la collection d'Hippolyte Détailleur.
Oui, alors Hippolyte Détailleur, qui est un architecte.
C'est intéressant parce qu'effectivement, son parcours, lui, c'est celui d'un architecte, et pas d'un peintre ni d'un sculpteur. Et il avait acquis plusieurs dessins de Primatis.
Il a acquis énormément de dessins de Primatis. C'est peut-être un des temps forts de l'exposition. Détailleur, c'est un architecte parisien et je dirais qu'il y a deux sources d'inspiration dans sa collection. Il y a d'une part la fibre parisienne, hein, il est l'architecte officiel du 19e qu'on connaît, il est fortement représenté dans les collections du musée Carnavalet également, qui lui ont déjà consacré une exposition, et une partie de son fond est au musée Carnavalet à Paris. Détailleur, il a collectionné tout ce qu'il a pu trouver sur le marché de l'art de son temps qui avait trait à l'histoire de la ville de Paris et de ses grands monuments. Alors à travers ce fil directeur de sa collection, nous on présente à Chantilly actuellement jusqu'au mois de juin, notamment un dessin de la fin du XVIe siècle qui monte eh bien, les abords de l'Institut de France actuelle puisqu'il s'agit d'une vue de la Seine avec la tour de Nesle, donc l'emplacement où se dresse aujourd'hui l'Institut de France, propriétaire de Chantilly, n'oublions pas. Et également un dessin un peu plus tardif du XVIIIe siècle qui est de Gabriel de Saint-Aubin et qui est une page détachée d'un des carnets de dessin de Saint-Aubin. C'est une vue tout à fait sympathique qui montre l'intérieur du Palais Royal à Paris.
C'est une très très belle...
C'est un tout petit dessin, mais très charmant, une petite page de carnet qui montre l'intérieur du Palais Royal un jour de tempête au XVIIIe siècle. Et on comprend que l'artiste est passé par là, il n'a pas pu s'empêcher de crayonner. Donc il y a un peu de brume, il y a un arbre qui est en train de se coucher au milieu du jardin, les bâtiments du Palais Royal qu'on connaît bien. Et puis au premier plan, un petit chien qui court, une espèce de petit caniche, juste une petite note de pierre noire, de crayon. Donc un dessin très charmant, qui évidemment évoquait un lieu qui était cher à notre propriétaire et collectionneur, le duc d'Aumale, puisqu'il a habité dans son enfance, dans sa jeunesse, cette demeure qui était celle des Orléans, de sa famille, bien sûr.
Alors, on voit à travers vos propos, vous avez visiblement souhaité rendre compte justement de la variété des techniques de toutes ces œuvres. Et quelle est l'histoire, le parcours d'une œuvre d'un collectionneur à un autre?
Alors ça, les historiens de l'art ont leur truc pour arriver à suivre l'histoire des dessins. Et c'est grâce aux collectionneurs eux-mêmes qu'ils plus souvent ont apposé, sur la face ou sur le verso, ça dépend des cas, leur marque de collection.
Alors parlez-nous de cette marque de collection.
Chaque grand musée ou chaque grand collectionneur en a. Hein. Ça a commencé par des collectionneurs aux origines et puis ensuite les musées ont repris cette pratique. Alors ça permet pour nous, historiens d'art, de suivre la trajectoire d'un dessin. Par exemple, les dessins de Dürer dont on parlait tout à l'heure, on peut savoir qu'après avoir appartenu aux artistes allemands dont je parlais, eh bien, ils ont figuré ensuite dans la collection de Dominique Vivant-Denon, le directeur des musées impériaux sous Napoléon Ier, hein, directeur du Louvre. Donc pour nous, c'est très important que de repérer ces marques de collection et de les identifier. Alors par chance, il y a un historien d'art hollandais du XXe siècle, Fritz Lurt, qui a réalisé un dictionnaire en deux volumes qui nous permet d'identifier ces marques. Et le duc d'Aumale, bien sûr, et le musée Condé de Chantilly, ont leur propre marque. Alors en ce qui nous concerne, c'est une fleur de lys, c'est-à-dire une partie des armes de la maison de Condé, avec la brisure, le bâton péri en bande, qui indique que la maison de Condé est une branche cadette de la maison de Bourbon, la maison royale de France. Donc cette petite marque est posée sur chacune de nos 2500 dessins, mais elle est souvent aux côtés de beaucoup d'autres marques plus anciennes.
Parmi les œuvres présentées dans l'exposition de Primatis à Ingres, quelle est celle qui a votre préférence, Nicole Garnier ?
Ah, moi, j'ai une grande tendresse pour le portrait de François Ier en César par Primatis, qui est un dessin donc à la sanguine, tout à fait superbe, en rapport bien sûr avec les travaux de Primatis à Fontainebleau, et qui est un dessin qui vient de la collection de Sir Thomas Lawrence. Ouais, c'est un dessin très fort, mais j'ai aussi beaucoup de tendresse pour les dessins de Poussin. Je les trouve très très forts.
Si vous voulez retrouver toutes les œuvres du musée Condé de Chantilly, vous pouvez les retrouver également sur Internet. Et oui, c'est la grande surprise que nous réserve la banque de données, une base appelée la base Joconde, à laquelle participent tous les musées de France. Nicole Garnier, est-ce que vous pouvez nous présenter ce vaste travail collectif?
Alors, ce vaste
accessible
travail,
au public.
Ah oui, tout à fait, il est sur Internet depuis bien longtemps maintenant. Donc, si vous avez Google, vous pouvez taper Joconde et vous basculez directement sur le site du ministère de la Culture, www.culture.gouv.fr, rubrique documentation, base de données Joconde. Mais sur Google, vous avez un lien immédiat. Et vous entrez donc sur cette base Joconde qui regroupe les œuvres des musées de France. Donc, musées nationaux, musées en région, et aussi bien sûr les collections du musée Condé de Chantilly. Alors, actuellement, dans l'exposition L'artiste collectionneur, on a un poste de travail où on peut interroger tous les dessins de Chantilly. C'est un extrait de cette base Joconde qui nous permet d'interroger selon différents critères. Critères d'auteur, si vous voulez savoir, en France, si tel artiste est représenté dans les collections de tel ou tel musée, bah vous tapez le nom de l'auteur et vous verrez sortir donc tous les lieux et toutes les œuvres qui sont représentées dans les collections publiques françaises. Cela marche pour la peinture, pour le dessin, pour les objets d'art, pour les collections antiques, etc.
Voilà, et vous avez eu la judicieuse idée d'installer deux postes justement d'ordinateur dans une des salles de l'exposition.
Voilà, et pour cette exposition de dessin,
pour satisfaire la grande curiosité du public.
Et pour leur donner aussi envie d'aller en savoir
de continuer,
un petit peu plus.
Voilà, de
grâce à Internet.
Cette découverte. Nicole Garnier, nous vous remercions d'être venue jusqu'à nous pour nous parler de l'exposition de Primatis à Ingres, l'artiste collectionneur, et j'invite nos auditeurs à venir visiter cette magnifique exposition au musée Condé, au château de Chantilly, et nous vous retrouverons prochainement pour les projets qui sont nombreux en septembre à Chantilly.
Merci de votre accueil.
Retrouvez les émissions consacrées aux expositions du musée Condé et au château de Chantilly dans la médiathèque de Canal Académie.